Vous écoutez France Culture.
C'est le début ce lundi de la semaine annuelle que les Nouveaux Chemins de la Connaissance consacrent à la question de la démocratie. L'an dernier, à la même époque, nous vous parlions des pathologies de la démocratie en partant du livre éponyme de la philosophe Cynthia Fleury. Cette année, c'est de sa rénovation, la rénovation de la démocratie, rien de moins qu'il sera question toute la semaine dans le cadre d'un partenariat que France Culture a noué avec la République des idées à l'occasion du forum organisé à Grenoble les 8, 9 et 10 mai prochains à la Maison de la Culture. Étrange expression que celle de rénovation de la démocratie. Comment entendre ce mot ? De quoi faudrait-il dépoussiérer notre démocratie ? Quelle différence faire entre renouvellement et rénovation ? Faut-il rénover les institutions, changer de république ? Ou bien la rénovation de la démocratie désigne-t-elle seulement, ce qui n'est déjà pas si mal, la possibilité toujours ouverte de critiquer la démocratie et le paradoxe étonnant d'un système qui, loin de réfuter ses critiques et de s'y rendre imperméable, se nourrit au contraire de ses griefs qui en font toute la vie ? Demain, mardi, Claude Mossé et Jean Bollac viendront vous parler de la démocratie athénienne. Mercredi, nous parlerons de démocratie ou de ce qu'il en reste à l'ère d'Internet. Jeudi, c'est de démocratie participative que nous parlerons en compagnie de Loïc Blondiot. Et vendredi, depuis Grenoble et en direct, les Nouveaux Chemins recevront Claude Lefort et Pierre Rosanvallon pour y parler notamment de légitimité démocratique. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant, c'est le philosophe Jacques Rancière qui est l'invité des Nouveaux Chemins. Jacques Rancière, à qui l'on doit en l'occurrence un ouvrage récent et roboratif comme toujours, intitulé « La haine de la démocratie » paru aux éditions de La Fabrique. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres. Ses enfants et ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas. Il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul. Au-dessus de cela, s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril, mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent, pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent. Il pourvoit à leur sécurité, prévoit et assure leurs besoins, facilite leurs plaisirs, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leurs héritages. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de penser et la peine de vivre ? C'est ainsi que tous les jours, il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu à chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. Bonjour Jacques Rancière.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue au Nouveau Chemin de la Connaissance, bienvenue sur France Culture. Jacques Rancière, est-ce que vous souscrivez à ce portrait que Tocqueville proposait dans les années 30, 1830, de la société démocratique ?
Non, je crois pas. Pour la simple raison, d'abord, je crois que ce n'est pas vraiment un portrait de la société démocratique. Et c'est d'ailleurs ce qui est très étrange, finalement, c'est que bon, ce texte qui est un tout petit bout du deuxième tome de Tocqueville, est venu à résumer entièrement la pensée de Tocqueville. Ce qui est tout à fait singulier, parce que bon, Tocqueville a consacré tout un tome, justement, à essayer de penser la démocratie comme des formes nouvelles de vie, d'échange, de pensée. Et puis, bon, il revient en France, il est plus ou moins désabusé usé, il écrit ses lignes, ces lignes qui sont devenues une espèce de Bible. On dit un peu en même temps, bon, c'est la prophétie de l'avenir, ce qui est tout à fait faux, parce que finalement, le pouvoir tutélaire qui s'est élevé en France quelques années après, d'ailleurs, Tocqueville a un peu contribué pendant un certain temps à préparer sa venue, n'avait rien à voir avec ça. Bon,
de quel pouvoir parlez-vous ?
Je parle du pouvoir de Napoléon III. C'est-à-dire qu'en fait, bon, disons, c'est quand même une prophétie très, très étrange. Parce que
Tocqueville était très hostile au coup d'État, quand même.
Il était très hostile au coup d'État, mais enfin, disons, il a été ministre de Louis-Napoléon, et bon, il avait avant lui, bon, disons, un petit peu consenti un peu à toutes les mesures qui, effectivement, ont préparé la restauration de l'ordre et à plus long terme, disons, l'avènement de Louis-Napoléon, même s'il a été hostile au coup d'État. Mais ce que je veux dire, finalement, c'est que l'avenir de la démocratie, avec cette idée d'une espèce de foule d'individus perdus dans leur petit monde, et puis une espèce de pouvoir tutélaire par-dessus, ça n'est jamais arrivé nulle part. Bon, Louis-Napoléon, il n'est pas arrivé justement comme ça, par une espèce de consentement. Non, il est arrivé par un coup d'État, précisément. Et un peu partout, finalement, je dirais que les pouvoirs tutélaires ont eu besoin, disons, de la force. Et qu'on n'a jamais vu, disons, cette espèce de rapport entre une masse complètement perdue dans son univers personnel et puis, une espèce de père, petit à petit, étendant son pouvoir.
Mais les pouvoirs tutélaires, Jacques Rancière, enfin, c'est depuis la Boétie, on sait, enfin, je mets le mot entre guillemets, hein, en tout cas, on se représente la possibilité d'un pouvoir tutélaire comme reposant à la fois sur l'usage de la force, mais également sur un désir implicite de servitude qui prendrait la forme de l'égoïsme individuel, tel que la démocratie, et selon Tocqueville, l'égalité nous en a donné le droit.
Oui, mais bon, je crois que ça, effectivement...
Est-ce que ce diagnostic-là vous semble pertinent ?
Je le crois pas très pertinent, si vous voulez. Je crois que malgré tout, bon, il est la manière dont Tocqueville a interprété à sa manière et au fond tout le 19e siècle a réinterprété cette espèce de grand thème contre-révolutionnaire, à savoir la Révolution française, la démocratie moderne, c'est le règne de l'individualisme. Avant, il y avait les grands corps collectifs, bon, les grands chaînes qui protégeaient les individus, que sais-je, et ainsi de suite. Et maintenant, on est dans le règne, bon, des individus. Bon, je pense que Tocqueville, justement, analysant la société américaine, ne tombe pas dans cette espèce d'un petit peu de vision. Bon, après, bon, disons, je crois qu'effectivement, il y a comme une espèce de glissement de Tocqueville qui reprend à sa manière cette analyse, bon, qui, je crois, me paraît à la fois très très, bon, très, très simplifiée et en même temps, bon, ce qui m'a toujours frappé quand même dans cette espèce de vision identifiant démocratie et puis égoïsme, plaisir individuel, c'est que ça remonte à Platon, quoi. C'est quand même quelque chose qui est tout à fait étrange, je pense. C'est qu'on a une espèce de description de la démocratie qui, en gros, se renouvelle constamment. Bon, effectivement, Tocqueville dit ça avec plus de brillant que ce qu'on dit aujourd'hui. Il le dit dans des termes un peu différents de Platon. Mais je crois, ce qui m'a toujours semblé, finalement, c'est que cette description de la société démocratique était en fait, disons, un argument politique d'une certaine façon déguisé, quoi.
Mais alors, ce qui est intéressant, parce qu'il faudrait voir en faveur de quoi est cet argument politique. J'en cogne mon micro, Jacques Rancière. Puisque le texte de Platon auquel vous faites référence se trouve donc au livre 8 de la République, hein, un texte qu'on a maintes fois cité au Nouveau Chemin de la Connaissance, c'est un texte important dans lequel Platon compare l'homme démocratique à un homme instable finalement, qui un matin est sobre, un matin ivre, un matin fait de la politique, un matin n'en fait pas, enfin un homme instable dont l'identité est incertaine. Et alors le texte de Platon est une machine de guerre de Platon contre la démocratie, qui est l'un de ses ennemis, pas le seul, mais l'un de ses ennemis. Le même portrait de l'homme démocratique, on le trouve chez Beaumarchais, le portrait que Figaro donne de lui-même, c'est le portrait d'un homme qui, à s'y méprendre, ressemble au démocrate platonicien, mais cette fois-ci pour s'en flatter, de sorte que la même critique de l'individu démocratique peut être employée soit pour condamner la démocratie, soit pour, au contraire, favoriser son émergence, comme c'est le cas avec le mariage de Figaro.
Oui, mais bon, je crois que malgré tout, dans tous ces cas, ce qui arrive, c'est que justement, on perd de vue, bon, finalement, le sens politique de la démocratie, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on en fait un état de société. Et on voit bien, effectivement, pourquoi Platon, par exemple, le fait. C'est parce que, bon, pour Platon, disons, le fait de gouverner doit être fondé sur un titre à gouverner, sur une capacité, une compétence à gouverner, et que la démocratie apparaît comme cette espèce de régime impossible, finalement, où bah, ceux qui gouvernent n'ont pas de titre particulier à gouverner, ils sont n'importe qui, et c'est ça que veut dire d'abord bon, même Demos, c'est pas le peuple assemblé, c'est d'abord les gens de rien, c'est bon, et bon...
Démocratie... Le Demos, rappelons-le, hein, oui. Étymologiquement, hein, la démocratie signifie le pouvoir du peuple, le pouvoir au peuple.
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire le pouvoir au peuple, mais c'est pas ce que veut dire peuple. Bon, démocratie, si on remonte tout à fait...
Je ne faisais que rappeler l'étymologie.
Oui, bien sûr, absolument, oui. Bon, effectivement, si on veut remonter à l'origine, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que Demos, en même temps, était une injure, quoi. C'est-à-dire, pour les contemporains de Platon, pour un petit peu les gens de son monde, bah, ça veut dire la racaille, quoi. Ça veut dire les gens de rien, quoi. Et effectivement, le scandale, il est d'abord là, à savoir un gouvernement des gens de rien. Et au fond, ce scandale est comme, en quelque sorte, apaisé par l'idée que ces gens-là ne gouvernent pas du tout, que précisément ce ne sont que des individus, que ça n'est que finalement une sorte d'état de société, bon, au fond un phénomène sociologique et pas un phénomène politique.
En somme, ce que vous pointez, c'est la confusion du peuple et de la plèbe.
Je ne sais pas s'il faut... Non, pas nécessairement. Je crois que ce que je pointe, c'est finalement la constitution d'une catégorie qui est une catégorie polémique. Et bon, moi, ça ne me gêne pas en soi-même. Je veux dire que précisément, ce que j'essaye de dire, c'est que bah, les concepts de la politique ne désignent pas comme ça des espèces d'éléments dans des classifications, pouvoir du peuple, pouvoir de quelques-uns, pouvoir des meilleurs, et ainsi de suite. Non, bah, ce sont d'abord, d'emblée, au fond, des armes polémiques. Et démocratie, c'est d'abord une insulte, quoi. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler ça, justement. C'est-à-dire que la démocratie ne désigne pas d'abord une espèce de chapitre dans une classification des formes d'État, mais désigne d'abord une sorte d'insulte qui désigne un scandale, à savoir que gouvernent ceux qui sont rien, qui n'ont pas de titre, qui ne sont ni les plus riches, ni les meilleurs, ni les anciens, ni les savants.
Et pourtant, dans la langue commune aujourd'hui, le mot de démocratie est peut-être le mot le plus valorisé par tous. D'ailleurs, le mot qui est revendiqué et brandi indifféremment par l'ensemble du corps politique, c'est toujours au nom de la démocratie qu'on prétend s'exprimer, et ce de la gauche jusqu'à la droite de la droite. Comment expliquer que cette insulte soit devenue aujourd'hui ce qu'il y a officiellement de plus souhaitable ?
Bon, je crois que justement, il me semble que par rapport à ça, il y a un changement, quoi. C'est-à-dire que si on pense, bon, aux années 50, bon, démocratie contre totalitarisme, là, on avait vraiment effectivement une espèce de, à la fois de reconnaissance d'un côté de la démocratie comme le régime des libertés contre le régime des dictatures, bon, avec l'autre côté, bien sûr, bon, tous les marxistes qui disaient, mais cette démocratie est formelle, elle recouvre le pouvoir du capital, etc., quoi. Or, ce qui me frappe, c'est que justement, depuis que l'Union soviétique n'existe plus, depuis une certaine façon que l'alternative socialiste n'existe plus, ben on a vu quand même la démocratie perdre beaucoup, disons finalement de sa valeur, y compris disons dans les cercles qui justement auparavant n'avaient que ce mot à la bouche, quoi. J'ai quand même écrit ce livre là qui s'appelle La haine de la démocratie, donc pour répondre à ce texte de Jean-Claude Milner, enfin sur les penchants criminels de l'Europe démocratique, où tout d'un coup, disons, crime et démocratie étaient associés, quoi. Donc, ce qui était à la fois un livre d'un individu, mais en même temps comme une espèce de signe que précisément, le consensus sur la démocratie était en train de s'effriter. Donc, d'un côté, bon, effectivement, il y avait des armées qui partaient pour apporter la démocratie aux Irakiens, mais qu'en même temps se développait un petit peu partout un discours disant, oui, mais ce qui menace la démocratie, en fait, c'est la démocratie, à savoir justement ce règne des individus, consommateurs narcissiques, affalés devant leur télé, plongés dans Internet, avides de consommation, etc. Donc, il y a eu véritablement, je crois, un tournant, justement. Et moi, j'ai essayé un petit peu de réfléchir sur ce tournant.
On va revenir avec vous, Jacques Rancière, hein, sur cette démocratie qui prétend s'exporter, sur ce qu'elle signifie. Avant cela, deux questions. La première... malgré tout, hein, pour en revenir à Tocqueville un instant, cet individu démocratique, vous ne le voyez pas ? Est-ce qu'il ne vous saute pas aux yeux, si j'ose dire ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il est là, qu'il vote, qu'il agit, qu'il pense à lui, qu'il est effectivement plongé dans sa bulle sur Internet, etc. etc. et que hors de son petit cercle, le reste du monde n'existe pas ? Première question. Et deuxième question, est-ce que qui est liée finalement à la première. Deuxième question, est-ce que selon vous, un texte comme celui de Tocqueville, qu'on a entendu tout à l'heure, fait de Tocqueville, au même titre, différemment et dans une autre ampleur, qu'Alain Finkielkraut ou Jean-Claude Milner, qui sont vos têtes de turc dans ce livre, La haine de la démocratie, fait de Tocqueville un de ceux dont vous diriez qu'il est dans la haine de la démocratie?
Bon, alors bon, premier problème, bon, je pense que si vous voulez, qu'il y a quand même une sorte de, vraiment de simplisme extrême dans cette idée de l'individu qui, parce qu'il est bon, sur son ordinateur, disons, est coupé du monde dans sa bulle. Bon, on sait très bien que l'ordinateur, ça a servi aussi à assembler des manifestations, ça a servi à. Ça sert à diffuser, ça sert à mettre en contact, si vous voulez. Donc je crois qu'il y a une espèce d'opposition complètement. Complètement arbitraire, où on imagine que effectivement vous êtes devant un écran, donc vous êtes devant des images. Et même des gens, il y a plein de gens qui pensent qu'un ordinateur c'est un écran c'est des images, donc quelqu'un qui tape sur un ordinateur c'est quelqu'un qui est fasciné devant des images. Enfin, vous voyez ces choses absurdes, quoi. Je crois qu'il faut quand même rétablir un petit peu les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un écran? Qu'est-ce qu'on fait sur un écran? Et je pense que moi, si vous voulez, je ne suis pas du tout convaincu qu'on vive dans une société plus individualiste qu'il y a 30 ou 40 ans. Je suis frappé par le fait qu'effectivement que les mêmes individus que vous pouvez dire effectivement obéir un petit peu à tous les signes, disons un petit peu de la consommation et ainsi de suite, se montrent en même temps capables, disons des activités militantes, des dévouements les plus incroyables. Donc je crois que vraiment à mon avis ce portrait effectivement est une caricature surtout de présenter Tocqueville comme résumé dans ce portrait, parce que c'est tellement plus compliqué ce que Tocqueville dit sur la démocratie américaine.
Mais est-ce qu'un texte comme celui-là témoigne de ce que vous appelez la haine de la démocratie? Parce que d'aucuns diraient qu'un texte comme celui-là pratique la critique de la démocratie et que la démocratie se nourrit des critiques qu'on lui porte, et qu'après tout, Tocqueville, comme il le disait lui-même, hein, aristocrate de cœur et démocrate de tête, n'aimant pas, au fond, la démocratie, lui porte non pas des coups terribles, ou en tout cas définitifs, mais au contraire qu'il a féconde et l'aide à se régénérer. Est-ce qu'on est dans la critique féconde, ou est-ce qu'on est dans la haine, la guerre à la démocratie, selon vous?
Je pense qu'on est dans une espèce de... d'indécision, c'est-à-dire qu'on va très bien, bon, Tocqueville partir aux États-Unis avec cette idée un petit peu qu'ont certains esprits de l'époque, à savoir la démocratie c'est la fatalité du monde moderne, il faut savoir comment elle peut marcher. Donc il va aux États-Unis pour voir un petit peu, bon, comment une société démocratique peut marcher. Il en revient avec un diagnostic plutôt positif, quoi. Et puis bon, il rentre en France il est député de Valogne, bon, ce qui prédispose pas, disons, à une radicalité à l'époque vraiment terrible, quoi. Et bon, je dirais qu'il est pris un petit peu dans ce jeu-là, et de cette façon, pour moi, il oublie un petit peu ce qu'il a appris aux États-Unis pour finalement constituer quelque chose comme une espèce d'archétype du démocrate. Alors effectivement, je dirais pendant tout un certain temps, bon, Tocqueville est celui...
Mais est-ce que cet archétype du démocrate tombe sous le coup de ce que vous appelez la haine de la démocratie? Pardon, j'en reviens à cette question.
Non, mais moi je ne cherche pas nécessairement à cataloguer, à dire c'est bon, c'est mauvais, bon, il est haineux. Non, je pense que effectivement, c'est un portrait qui se situe comme sur une espèce de ligne de crête, effectivement, entre la critique et puis la détestation, quoi. Et je dirais qu'en 48, malgré tout, Tocqueville passera du côté de la détestation. Voilà, et effectivement, comme beaucoup de gens supposés libéraux, malgré tout, disons, qui n'auront pas beaucoup d'état d'âme devant la transportation sans jugement et des choses du même genre, quoi. Voilà.
Bon, il faudrait revenir, hein. Il y aurait là-dessus beaucoup à dire, ça n'est malheureusement pas une émission sur Tocqueville, mais sur la démocratie. Il n'en est jamais vraiment loin, hein, de toute façon. On va continuer avec vous cette discussion, Jacques Rancière. Je voudrais pour cela qu'on entende Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez parlé tout à l'heure d'une démocratie qui s'exporte, ou en tout cas qui prétend le faire, le projet antidémocratique d'une démocratie qui prétend s'imposer, voire par la force, par les armes. Hubert Védrine, justement, en février 2003, revient sur ce problème, et la différence qu'il y a entre le souhait irénique que les valeurs démocratiques se répandent à travers le monde et les méthodes musclées qu'on emploie pour le faire écouter.
En ce qui me concerne, je suis tout à fait convaincu que les principaux grands concepts élaborés au cours des deux siècles récents par l'Occident sur la démocratie, sur les droits de l'individu, sur les droits de l'homme, sont des concepts qui s'appliquent et auxquels ont droit tous les peuples de la Terre. Donc, je n'ai jamais trouvé aucun fondement à des pensées relativistes là-dessus. du genre la démocratie est superflue pour les Chinois ou les Arabes. Bon, tout ça est tout à fait absurde. En revanche, ce que je trouve mal résolu, c'est la façon dont l'Occident d'aujourd'hui, que ce soit les gouvernements ou les médias ou les ONG, d'ailleurs c'est à peu près pareil, et que ce soit les Européens ou les Américains, qui sur ce point ne sont pas tellement différents. Ce qui est mal résolu, c'est la façon dont l'Occident d'aujourd'hui prétend imposer l'état actuel de sa démocratie, puisque la démocratie c'est un processus. On n'a pas eu, dès les élections de 1795, le même système démocratique en France qu'en 2003 et ailleurs. Donc comment l'imposer aux autres ? Comment l'opposer aux pays, aux cultures, aux civilisations qui ne sont pas à cet état de développement démocratique ? Ça, c'est mal résolu parce que c'est tout à fait différent d'arriver à la démocratie par le fruit d'une histoire interne, avec un développement économique et social. Regardez notre 19e siècle, les affrontements, les révolutions violentes, les contre-révolutions féroces, les avancées, les reculs. Et petit à petit, qu'à un cas, on avance et on consolide, on l'a fait par nous-mêmes. Non pas parce qu'on a été pressé par un gouvernement extérieur, ou une ONU de l'époque, ou des ONG extérieures, mais c'est notre propre histoire avec ses forces en mouvement. C'est très différent quand ce sont les pays les plus riches, les plus dominants depuis toujours, les Occidentaux qui veulent imposer ce schéma à d'autres, qui en plus ont souvent, pas toujours, mais qui ont souvent été leurs anciennes colonies.
Léonard Cohen dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance et Jacques Rancière qui est notre invité d'aujourd'hui. Ça n'est pas Léonard Cohen notre invité, c'est Jacques Rancière. C'est tout à fait différent, encore que. Jacques Rancière, on parle de haine de la démocratie aujourd'hui avec vous à l'occasion de votre livre paru aux éditions de La Fabrique, La haine de la démocratie. On a entendu avant Léonard Cohen quelques mots d'Hubert Védrine sur ces démocraties qui s'exportent. Est-ce que la volonté, pour le coup proprement impérialiste en un sens, d'exporter la démocratie, les pratiques et les usages de la démocratie au mépris éventuel des traditions en place, faisant fi de ces traditions, relève selon vous d'une haine de la démocratie ou d'un amour exacerbé et polémogène de la démocratie ?
Je dirais, ni l'un ni l'autre. Je dirais, de toute façon, il faut bien voir ce qu'on entend par exporter la démocratie, quoi. En fait, justement, démocratie veut dire dans ce cas-là, bon, exporter un certain type d'État, bon, certaines formes constitutionnelles, quoi. En gros, malgré tout, ce qu'on se propose d'exporter là, c'est bon, effectivement, un certain type de structure étatique. Hein,
Avec des gouvernants élus, quand même.
Oui,
ce qui change du parti basse.
Absolument.
On parle d'Irak, hein, là,
mais
bah
absolument.
Hein,
mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde, on sait très bien que les formes de l'État constitutionnel ne suffisent jamais par eux-mêmes, effectivement, à faire exister la démocratie. Ce que je veux dire, c'est que la démocratie est toujours le processus qui donne réalité. Bon, on sait que des élections, ça ne suffit pas en soi. Bon, on a connu bien sûr les régimes totalitaires avec les élections à 98%, mais on a connu aussi effectivement l'époque de Tocqueville, où on sait que la pression était exercée sur le peuple des campagnes pour faire élire les bons députés. Ce que je veux dire donc, c'est que de toute façon, des formes constitutionnelles du pouvoir du peuple, bon, c'est tout à fait important, mais ça ne suffit jamais. Il faut toujours qu'il y ait, disons, une prise en charge, effectivement, par un mouvement démocratique réel. Et ça, c'est évidemment ce que on n'exporte jamais. Et c'est effectivement là que, forcément, on est dans l'échec. On est dans l'échec si réellement on s'imagine qu'on va exporter la démocratie. Et même, on est dans l'échec parce qu'on voit très bien, justement, que bon, les élections qui ont été mises en place, bon, ces élections, elles ont abouti à quoi ? Elles ont abouti, finalement, à une espèce de répartition en fonction en fonction des clans ethniques, en fonction des religions, etc. Et c'est clair que ça, c'est pas la démocratie. C'est même pas, on peut même pas dire que ce soit la constitution, l'esprit de constitution, que de donner finalement des espèces de quotas à des forces religieuses ethniques.
Non, mais que l'Irak ne soit pas une démocratie aujourd'hui, Jacques Rancière, personne n'en doute. Mais en revanche, est-ce que, sans en faire l'alpha et l'oméga de la démocratie, est-ce qu'un système électif ne vous semble pas, à défaut d'être suffisant, en tout cas indispensable à une démocratie?
Je pense qu'effectivement, là où il n'y a
malgré
pas...
Malgré ses défauts, hein, oui, et malgré ce que vous disiez, on pourrait donner 1000 exemples de ce que
j'essaie de dire,
hein.
Simplement, c'est que, disons, il y a une différence entre, disons, forme étatique et puis réalité d'une vie démocratique. Et cela dit, c'est parfaitement vrai que, là où les formes n'existent pas, la vie démocratique, existe généralement encore moins. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, je pense que, les soi-disant alternatives, effectivement, aux formes d'État constitutionnel fondées sur des traditions qui, permettraient une espèce de démocratie plus réelle, plus authentique. Ça, je veux dire que je n'y crois. Je n'y crois pas du tout.
Vous n'adhérez pas, par exemple, à élection piège à con, enfin le fameux article de Sartre en 73 dans Libé, pointant d'ailleurs, avec beaucoup de pertinence également, le fait que l'individu qui se contente de se rendre dans l'isoloir de temps en temps se dispense par là même d'avoir toute conscience politique.
Je pense, si vous voulez, que le système électoral que nous connaissons est un système qui est parfaitement contradictoire, parce que c'est un système qui est destiné, à la reproduction, qui est destiné à la reproduction effectivement d'un personnel dit politique, où on a vu spectaculairement, il y a 2 ans, que finalement, si les gens sont de droite ou de gauche, ça n'a pas beaucoup d'importance, et qu'effectivement ils sont exactement aptes à faire les mêmes choses, même s'ils ont été élus contre le président élu. Donc d'un côté, effectivement, je dirais qu'on peut dire que c'est un organe de reproduction. D'un autre côté, je pense qu'en même temps, c'est effectivement la prise en compte, je dirais, de l'égalité des voix, c'est la prise en compte d'une espèce de pouvoir de n'importe qui. Et quelquefois, ça a des effets. On l'a vu au moment, du référendum sur l'Europe, où il y avait une question qui portait sa réponse par elle-même. Toute la classe dite politique était d'accord sur la réponse à donner. Et à savoir, était d'accord sur l'idée que ce n'était pas une vraie question, c'était une adhésion. Et le sens premier de l'élection en Occident, effectivement, au Moyen-Âge, on apporte son soutien, à la puissance dominante.
De sorte que vous
et puis tout d'un coup, c'est devenu une vraie question. C'est-à-dire, c'est intéressant, cette espèce justement de bascule, finalement, entre deux logiques.
Mais alors, est-ce que, du coup, la victoire du non au référendum au traité constitutionnel européen en mai 2005, vous semble, pour le coup, à la faveur de ce référendum et de cette démocratie qui repose sur le sens démocratique de ceux qui y vivent, vous a semblé une victoire de la démocratie face à des structures oligarchiques, finalement, qui se servaient du vote comme une entreprise de ratification des décisions prises a priori?
Oui, je pense qu'il y a eu quelque chose. On dirait les raisons du non, on sait qu'elles sont diverses et contradictoires. On sait effectivement qu'il y a un processus qui, en quelque sorte, a été, comme dévié de son propre sens. C'était un processus de ratification, d'adhésion par acclamation, qui s'est effectivement transformé en une vraie question. Et dans une vraie question, il y a toujours la possibilité que la réponse soit non. Et ce que j'ai trouvé tout à fait intéressant, c'est le nombre de gens, qui ont lu la Constitution. Et quelquefois, comme ça arrive, il y a des moments démocratiques. Je me souviens aussi, par exemple, d'un mouvement étudiant de 86, comme ça, où les étudiants ont lu, commenté la réforme, l'ont diffusé. Ça a été un peu pareil pour la Constitution européenne. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens se sont mis à lire les choses. Et peut-être que si, effectivement, il n'y avait pas, le gouvernement n'avait pas diffusé le texte, peut-être qu'il aurait mieux réussi. C'est très, très probable. Mais là, on a vu comme ça, des gens commencer un petit peu à réfléchir, à discuter. Et voilà. Par ailleurs, on peut, effectivement, toujours gloser sur à la fois sur les raisons des uns et des autres, et également sur les conséquences, que ça a pu avoir, ou sur l'absence de conséquences. Mais pour moi, c'est important que, à certains moments, tout d'un coup, il apparaisse que le choix du peuple devienne davantage une réalité.
C'est ce que j'allais vous dire sur les conséquences, justement. Si vous faites de ce moment, restons un instant sur ce moment du référendum, puisque vous en parlez, Jacques Rancière, et c'est vrai que c'est un moment important de notre histoire démocratique. Si vous faites de ce moment une victoire démocratique, est-ce que ça veut dire, dans ces conditions, que la victoire, au mépris des conséquences qui furent les siennes, que cette victoire témoigne que la démocratie, en somme la démocratie véritable, n'existe, comme dit Alain Badiou par exemple, que par éclair ou par éclat, et ce indépendamment des conséquences, puisque les conséquences de la victoire du non ont été le passage en force sur un mode parlementaire et non plus référendaire des quasi mêmes dispositions qui étaient contenues dans le traité constitutionnel européen. Est-ce qu'en somme, la démocratie peut s'exprimer autrement que sous la forme ponctuelle d'une contestation, ou bien est-ce qu'un authentique projet démocratique peut s'inscrire dans une continuité ? En somme, est-ce que la démocratie existe hors du simple refus dont elle témoigne ?
On peut dire que, disons, dans l'état actuel des choses, on voit effectivement, on la voit s'exprimer sous la forme d'un simple refus parce que, on vit effectivement dans un système politique qui est quand même un système politique, qui est de plus en plus oligarchique et qui effectivement, met en quelque sorte, la démocratie sur une espèce de base, de pied défensif, quoi. Et par rapport à ça, je crois que ce qui est le problème, c'est qu'il n'y a pas de projet démocratique qui, je dirais, est quelque chose comme au fond ces institutions propres, quoi. On a des institutions qui sont faites pour fonctionner dans le cadre de la Ve République, c'est-à-dire pour fonctionner, pour effectivement opérer une espèce d'alternance de ceux qui gouvernent et qui appliquent en gros les mêmes dispositions, quoi, et ou bien pour récolter un petit peu comme ça des espèces de voix, des élections secondaires, et ainsi de suite. Mais on n'a pas d'organisation politique, je dirais, qui soit d'abord, je dirais, comme l'affirmation d'un pouvoir de tous qui est, comme on peut dire, déconnecté des exigences de la machine et qui est au fond son autonomie par rapport au type de vie politique qui est prescrit par la machine.
Que désignez-vous, Jacques Rancière, par organisation politique qui soit l'affirmation du pouvoir de tous ? Concrètement, ça ressemble à quoi ?
Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble, je dirais, pour moi, ça ressemble à, ça ressemble à des, ça ressemble à des organisations qui essayent de manifester, je dirais, des choix, des préférences, des orientations qui soient celles effectivement d'une démocratie entendue comme mise en application d'une capacité qui est la capacité de tous, parce que c'est ça finalement que veut dire démocratie, et c'est ça un petit peu le paradoxe ou le côté insupportable de la démocratie. C'est que la démocratie, c'est en quelque sorte le régime qui se définit de n'être pas justement le pouvoir de ceux qui sont mieux nés, plus capables, plus savants, et ainsi de suite. Un pouvoir éminemment paradoxal, mais qui en même temps, je dirais, a ses formes, montre quelquefois qu'il a effectivement ses formes d'existence, et je crois que c'est parfaitement possible. Pour l'instant, théoriquement. Moi, je ne suis pas chef. Je ne suis pas chef de parti. Je ne suis pas agitateur. Je ne suis pas vraiment homme public, quoi. Je pense parfaitement possible que des organisations politiques essayent de réfléchir en disant qu'est-ce que c'est qu'une démocratie qui soit le pouvoir de tous, l'exercice d'une capacité qui est celle de tous, et pas la mise en œuvre des recettes élaborées par les experts, et après ça mise en œuvre par des gens, par les élus et par les dirigeants. Et donc je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, ça veut dire briser un petit peu les partitions entre le politique et le social, le politique et le syndical. Ça veut dire effectivement des formes d'expression, des formes de diffusion qui soient vraiment indépendantes de la machine étatique. Et le problème, c'est que on est effectivement, on est toujours une espèce de dichotomie, quoi. C'est-à-dire qu'on a, bon, bah, la machine qui prescrit effectivement sa vie politique, et puis bon, les petits éclats, c'est-à-dire, et bon, et souvent on dit, ah oui, mais la vraie politique, c'est les luttes, bon, bah, c'est des gens qui se battent contre une fermeture d'usine à droite, contre une fermeture d'hôpital à gauche, contre une réforme universitaire entre les deux, et ainsi de suite.
Vous avez aussi ceux qui disent la vraie politique, c'est au Parlement qu'elle se décide. Hein.
Je ne pense pas que personne, disons, le dise et le croit sérieusement aujourd'hui, parce que, bon, vu ce que sont nos parlements, je crois que, bon, disons, bon, je pense que...
Mais que sont-ils, nos parlements,
Jacques? Nos parlements sont essentiellement, bon, des chambres d'enregistrement. Oui, mais ce sont des chambres...
En tout cas, l'un d'entre eux est incontestablement élu. Hein l'un des deux parlements...
Non, mais je veux dire que, disons, encore une fois, bon, je dirais que, bon, ce sont des gens qui sont élus dans la foulée de l'élection présidentielle, c'est-à-dire que, bon, on prend les choses à l'envers, quoi. On commence par, effectivement, remettre tout pouvoir à un homme. Et je dirais, d'une certaine façon, bon, le schéma tocquevillien, en fait, bon, c'est ça, hein, d'une certaine façon, si on le prend au sérieux, quoi. On commence par remettre tout pouvoir à un homme. Après ça, on lui crée une majorité. Bon, pendant 5 ans, il va gouverner avec cette majorité. Ça veut dire que les lois sont essentiellement faites par le gouvernement, ce qui est quand même pas vraiment l'idéal démocratique, ce qui n'était pas l'idéal de Tocqueville, par exemple, que les lois soient faites par le gouvernement. Bon, ce qui fait que les parlementaires, disons, pour se donner l'impression qu'ils sont importants, du même coup, rajoutent quelques lois un peu singulières, comme par exemple, bon, disons les lois insistant sur le fait qu'il fallait développer le côté positif de la colonisation. Enfin, c'est de petites lois comme ça, un peu amusantes, disons, qui leur donnent l'impression qu'ils sont indépendants, quoi. Mais bon, fondamentalement, je crois que, bon, disons, malheureusement, la politique ne se fait pas au Parlement. Dans le Parlement, il n'y a personne. Bon, le gouvernement n'arrive même pas à avoir la vingtaine de députés nécessaires pour faire passer les lois que lui, le gouvernement, fait. Donc voilà, on est quand même dans cette situation. Il faut bien dire que, le parlementarisme a été proprement tué, non pas par l'individualisme ou que sais-je, mais a été proprement tué par les institutions.
Oh, en tout cas, c'est un mort qui bouge encore. Mais avant de revenir éventuellement sur cette question du parlementarisme avec vous, Jacques Rancière, je voudrais qu'on en revienne sur cette forme politique, hein, que vous désignez, en somme, ce gouvernement de tous, cette collectivité. Comment penser un gouvernement de tous qui ne fasse pas abstraction des tendances qui seraient internes, justement, à cette collectivité ou à cette totalité? On a relevé au Nouveau Chemin une archive qui date du 14 janvier 90, c'est Georges Marchais. C'est Georges Marchais qui décrit, je dois dire en des termes assez contradictoires, ce qu'on appelle le centralisme démocratique. Et je voudrais savoir dans quelle mesure, ce qui distingue en somme un gouvernement de tous, de ce qu'il appelle lui le centralisme démocratique. Écoutez.
Dans notre parti, qui décide la politique? Ce sont les communistes. Il n'y a pas de tendance, et croyez-moi, ce qui se passe au Parti Socialiste et au RPR ne me conduit pas personnellement à m'orienter vers un parti de tendance. Je considère que ce sont tous les communistes qui doivent contribuer à l'élaboration du parti. Il y a vote, il y a une majorité, on applique les décisions voulues par la majorité, c'est la loi de la démocratie. Les directions sont élues à bulletin secret. Et nous avons élu dans nos derniers congrès à la direction du parti des camarades qui l'ont quitté depuis, je le regrette, malgré leur désaccord à l'époque, malgré qu'ils aient voté contre notre politique. Par conséquent, le centralisme démocratique, notre vie démocratique, elle est bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas être améliorée. De haut en bas, il y a un effort permanent à faire et dans mon dernier rapport à la dernière réunion de la direction, j'ai posé encore, moi et mes camarades, avec beaucoup de force, ces questions. Cela étant dit, je considère que notre règle de vie est la plus démocratique qui existe en France.
Dont acte. Donc, c'était Georges Marchais en 1990. Jacques Rancière, c'est énorme parce qu'il n'y a pas de tendance au Parti communiste, en tout cas de l'époque, mais il y a quand même un vote à la majorité et un vote à bulletin secret. Alors, est-ce qu'on est là dans une tentative d'obtenir un gouvernement de tous par tous? Est-ce que c'est là une forme, alors pour le coup, plus démocratique que le parlementarisme défunt dont vous parliez il y a quelques minutes?
Oui, écoutez, là, je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. C'est-à-dire que, bon, disons...
On essaye, on dit, disons,
on sait malgré tout, effectivement, que, comment les fameux votes à bulletin secret, etc., sont organisés dans ce type d'organisation, où, effectivement, on peut toujours dire que les gens sont élus, effectivement, avec des formes de pression, des manipulations de toutes sortes. Donc, je veux dire que, bon, il est parfaitement clair, effectivement, qu'une certaine idée de la démocratie qui dit, bon, oui, pas de tendance, c'est tous... Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que, précisément, le tous en question doit s'incarner comme une espèce de seul corps qui est un corps unanime.
Mais comment échapper à cela quand on est dans une logique de l'unanimité, quand on veut abjurer les tendances? Comment échapper? Soit on représente les tendances et on est dans un système pluraliste, tel qu'on le connaît, tel que notre Parlement en donne une forme peut-être médiocre, mais enfin réelle, ou bien on est dans un centralisme démocratique qui, au nom de la volonté de tous, devient la volonté d'un seul.
Oui, mais je ne crois pas qu'il y ait, si vous voulez...
Comment sortir de cette alternative, en
oui,
gros?
Oui, mais est-ce que c'est une alternative? J'en sais rien, parce que d'une certaine façon, bon, entre le centralisme démocratique et puis à la marché, et puis la politique de Sarkozy, je pense que l'écart se réduit de plus en plus. Enfin,
non, mais laissons Sarkozy ici. Oui, la constitution de la Ve République.
Oui, non, mais je veux dire que, bon, mais je pense que... Bon, donc, si vous voulez, moi, je ne plaide pas de toute façon pour aucune forme d'unanimisme. C'est-à-dire que lorsque je parle, disons, de la démocratie comme l'expression d'une capacité qui est la capacité qu'on peut supposer à tous. Je ne veux pas dire du tout que la démocratie, ça veut dire c'est le règne de l'unanimisme, c'est le règne du grand corps collectif. Non, je pense qu'il n'y a rien de plus antidémocratique, effectivement, que l'idée du grand corps collectif. Et bon, cela dit, la question, si vous voulez, est biaisée si on dit, bon, effectivement, c'est l'unanimisme ou bien c'est les tendances, donc c'est ce qu'on a aujourd'hui. Malheureusement, il faut bien dire que ce que nous voyons, ce que nous avons sous les yeux, enfin, sous le nom de parti politique, ce ne sont pas des tendances, ce sont, pour l'essentiel, les appareils de pouvoir qui se battent pour le pouvoir.
Enfin, qui s'entretuent entre eux quand même. On sent bien, Jacques Rancière, que vous n'avez pas votre carte au Parti Socialiste.
Non, mais absolument, absolument.
Vous ne l'avez pas vu de l'intérieur. C'est une guerre de tranchées.
C'est une guerre de tranchées, mais justement, c'est une guerre de tranchées, mais c'est pas une guerre de tranchées. Je dirais, la pensée n'y est pas pour grand chose. Enfin, disons, ce sont proprement des luttes de pouvoir, et effectivement, bon, ben, disons pour prendre le pouvoir sur les copains immédiatement à côté, bon, c'est plus important pour toutes ces organisations que le fait de définir une politique qui serait la politique, effectivement, la politique de tous. Donc c'est pour ça, si vous voulez, je pense que, à mon avis, l'alternative que vous proposez ne se pose pas, parce que d'un côté, on a de fait une espèce de centralisme démocratique, si on peut dire, qui règne maintenant dans l'État. Et par ailleurs, ce qui se présente comme vie politique, bon, on est quand même pour l'essentiel que des règlements de compte assez misérables, quoi. C'est-à-dire que, bon, et d'une certaine façon, je dirais que, bon, la constitution de la Ve République était supposée justement mettre un terme, bon, on peut dire, à la lutte des tendances, au fractionnement, quoi. Et bon, le résultat en est effectivement qu'on a des espèces d'appareils à vocation majoritaire. Mes appareils à vocation majoritaire, disons qu'ils sont eux-mêmes fractionnés en 15 ou 30, disons, appareils, désireux de prendre le contrôle de cet appareil. Donc, je crois que, si vous voulez, on a à la fois l'unanimisme et puis quelque chose qui n'a plus rien à voir avec, disons, des choix politiques qui s'opposent.
Mais alors, puisqu'on est dans cette semaine, le prétexte de cette semaine pour parler de démocratie et faire lire des classiques aussi de philosophie politique et des grands livres, que ce soit Tocqueville, Raymond Aron ou Althusser ou Rancière, que cette semaine soit l'occasion de faire tout cela ne nous empêche pas de revenir quand même sur son intitulé, la rénovation de la démocratie. Quelle alternative à l'alternative? Comment échapper donc à cette alternative que vous récusez, Jacques Rancière? Comment concilier à la fois donc cette exigence démocratique et la nécessité d'en préserver les dissensions, les fractures, les tendances, les écarts et également les jeux de pouvoir? En somme, quel modèle positif de démocratie peut-on retirer de ce que vous dites?
Bon, je pense que, disons, encore une fois, tout dépend de ce qu'on appelle démocratie, si on pense démocratie comme une forme d'État ou pas. Non, moi je dirais plutôt que comment penser une forme d'État. Non, il y a une forme d'État qui laisse du jeu à la démocratie. Je pense qu'il y a deux problèmes. D'une part, qu'est-ce qu'on définit comme forme d'organisation démocratique, comme mode vraiment politique démocratique, et puis disons qu'est-ce qu'on définit comme type d'État où la démocratie puisse fonctionner, quoi. Et bon, je pense que par rapport à ça, oui, effectivement, on peut parfaitement disons faire deux choses, c'est-à-dire effectivement d'un côté penser des organisations qui se définissent par un projet justement à l'égard de la démocratie et non pas par simplement la volonté de prendre le pouvoir la prochaine fois, quoi. Et je pense qu'effectivement il y a nécessité de repenser complètement ce que démocratie veut dire, de se demander si on peut avoir si effectivement démocratie veut dire président élu suffrage universel, ce que je pense pas du tout, parce que je pense que le suffrage universel a jamais été créé, même s'il a été favorisé en ce sens en 48, entre 48 et 51, le suffrage universel, la volonté de tous, n'a pas vocation du tout à se déléguer à un seul homme.
Est-ce que ça n'est pas la moins imparfaite des formes prises par le respect de la volonté de tous? Je ne dis pas la meilleure,
je ne pense pas du tout que ce soit...
Qu'y a-t-il mieux?
Je pense qu'effectivement, on peut avoir effectivement des formes nettement moins oligarchiques, des formes où effectivement les représentants soient des vrais représentants. Je veux dire que par là, ce ne soient pas des professionnels de la politique, mais que ce soient des gens qui soient élus pour des mandats courts, des mandats non renouvelables, non cumulables, où on considère par conséquent que la fonction présidentielle est subordonnée. C'était quand même ça un petit peu malgré tout le projet républicain au départ, c'était quand même que la fonction présidentielle soit subordonnée à, au fond, à la représentation nationale. Bon, alors, il y a toutes les ambiguïtés sur la représentation, mais il est clair que la représentation fonctionne, honorablement. Là, effectivement, on n'est plus dans ces systèmes de députés à vie, de mandats cumulables, de renouvellement éternel. Je pense qu'on peut donc proposer des formes de vie politique qui soient en rupture complète avec les modes actuels, effectivement, de gestion de l'État, les modes actuels de la représentation.
Est-ce que vous adhérez, Jacques Rancière, à l'initiative du président de la République de limiter à deux le nombre de mandats présidentiels?
Bon, moi, je pense que un est déjà suffisant, et même trop, je dirais, compte tenu du cumul des pouvoirs. Bon, c'est quelque chose qui existe aux États-Unis, comme on sait, etc., avec quand même l'avantage aux États-Unis que, au bout de deux ans, le président peut avoir, un parlement contre lui, quoi. Bon, ce qui n'arrivera jamais ici, quoi, si vous voulez, quoi. Et donc, je pense qu'effectivement, je suis d'accord pour toute limitation de l'exercice du pouvoir.
Bon, vous avez parlé, Jacques Rancière, on arrive malheureusement à une vitesse vertigineuse au terme de cette émission, et c'est bien dommage parce qu'il y aurait bien des choses à évoquer encore. Vous avez évoqué tout à l'heure cette capacité qu'on peut supposer à tous. Oui. Et nombre de vos textes, Jacques Rancière, reviennent sur la confiscation du pouvoir par une oligarchie, qui est un gouvernement des experts, en somme, une forme de technocratie. Et cette confiscation du pouvoir reposant, me semble-t-il, chez vous, sur l'idée que on distingue en somme ceux qui savent de ceux qui ignorent. À l'inverse, est-ce que le fait de supposer la même capacité à tous ne débouche pas des inepties qui sont prises avec la même considération que des discours structurés, précis, argumentés? En somme, est-ce que ça, on n'en revient pas à mettre sur un pied d'égalité un discours comme celui de Dieudonné un discours comme le vôtre, par exemple? Est-ce que le fait de supposer une capacité égale à tous ne nous fait pas verser dans d'autres illusions au nom même de la démocratie, le meilleur exemple de cela étant par exemple les âneries qu'on peut trouver sur Wikipédia?
Oui, mais bon, le problème, si vous voulez, c'est que les âneries qu'on trouve sur Wikipédia, okay, malheureusement, on en trouve d'autres dans des ouvrages, qui ont des titres et des garanties scientifiques tout à fait autres. Et bon, l'avantage de Wikipédia, c'est qu'ils disent on peut améliorer, quoi. Et bon, beaucoup de dictionnaires, malheureusement, supposés faits par des gens compétents, ne disent pas vous pouvez améliorer, quoi. Donc, je dirais que il circule beaucoup d'imbéciles. Bon, sur le net, il en circule beaucoup ailleurs. Je dirais qu'il ne circule pas plus d'imbécilité sur le net que finalement il en circule dans le reste de la société, et qu'il en circule malheureusement souvent dans des milieux qui se pensent effectivement cultivés, et ainsi de suite. Mais le problème n'est pas de dire tout le monde est génial. C'est pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est au fond que la capacité politique, si ça a un sens, le mot simplement, doit être, disons, la capacité qu'on peut supposer être partagée par tous, quoi. Sans ça, on est plus dans la politique, quoi. On est, dans quelque chose comme, par exemple, ce que Platon appelait le gouvernement pastoral, quoi. Bon, effectivement, le pasteur, il sait ce qui est bon pour les brebis, parfait. Mais ça, c'est pas de la politique, quoi. La politique suppose cette capacité, et ça veut pas dire que tout ce que tout le monde dit est génial, pas du tout.
C'est tellement dommage, Jacques Rancière, de s'interrompre ici, notamment sur ce que vous dites du pasteur. Hein, vous parlez notamment du pasteur perdu dans la haine de la démocratie. C'est très beau ce que vous en dites. Il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Malheureusement, il faut s'en tenir là. Merci d'être venu nous voir. Jacques Rancière, vous êtes professeur émérite de l'Université Paris 8 Saint-Denis et c'est de la haine de la démocratie le livre que vous avez fait paraître aux éditions de La Fabrique que nous avons parlé aujourd'hui. J'en signale un autre, La Mésentente, paru chez Galilée en 95. Et le dernier ouvrage paru, à La Fabrique, le Spectateur émancipé. On fera une pétition pour envoyer... À votre sujet d'ailleurs, Jacques Rancière, dans l'agenda des parutions, je signale la parution très récente de Jacques Rancière et la politique de l'esthétique, dirigée par Jérôme Gamme et Alyosha Wald-Lazowski aux éditions des Archives contemporaines en 2009, et un beau livre collectif intitulé Vincennes, une aventure de la pensée critique, dirigé par Jean-Michel Djian chez Flammarion. Alors on est un peu en retard, je le dis rapidement, mais quand même, la République des idées organise les 8, 9 et 10 mai prochains à la Maison de la Culture de Grenoble un forum sur le thème « Réinventer la démocratie » dont France Culture est partenaire. Ce forum qui réunit près de 100 chercheurs, journalistes, intellectuels, hommes politiques et responsables associatifs. Les nouveaux chemins de la connaissance vous y donnent rendez-vous en direct vendredi à 17h. Demain, suite de cette semaine consacrée à la démocratie, on reviendra à Athènes, on parlera de la démocratie athénienne en compagnie de Claude Mossé et Jean Belac. À la technique aujourd'hui, Jean-Guilain Meige. À la réalisation, François Connac, assistant et collaboration, Geneviève Méric, Adèle Van Red, Jennifer Murzo, Igor Kortolitsa. France Culture, il est encore 17h50. Tout de suite, Albert Jacquard.